Chapitre 11. J'entends le vent souffler sur le désert, et je vois les lunes de la nuit d'hiver cingler dans le vide comme de grands vaisseaux. À elles, je fais serment. Je serai déterminé et je ferai un art du gouvernement. J'équilibrerai l'héritage du passé et je serai le magasin idéal des souvenirs préservés. Je serai connu pour ma bonté plutôt que pour mon savoir. Mon visage illuminera les couloirs du temps aussi longtemps qu'existeront les humains. Le serment de Leto, d'après Arcalada. Alia Atréide n'était encore qu'une très jeune enfant quand elle s'était mise pour la première fois en transe Prana Bindu durant 4 heures, afin d'essayer de consolider sa personnalité propre contre l'assaut de toutes ses autres. Elle connaissait le problème. On ne pouvait échapper au mélange dans un siège. Il se trouvait partout, dans les aliments, dans l'eau, dans l'air qu'elle respirait, et même dans les draps entre lesquels elle pleurait la nuit. Très tôt, elle avait été familiarisée avec la coutume de l'orgie du siège, au cours de laquelle la tribu buvait l'eau de mort du verre. Durant l'orgie, les Fremen libéraient les pressions accumulées de leur mémoire génétique tout en les reniant. Ainsi, Alia avait vu ses compagnons possédés pour un moment. Pour elle, elle ne pouvait rien libérer, rien renier. Elle avait acquis pleine conscience bien avant de naître, et avec la conscience, la connaissance cataclysmique des circonstances. Prisonnière dans la matrice du contact inévitable des personas de tous ses ancêtres et de ces entités que le taux d'épices avait transmises par-delà la mort jusqu'en Dame Jessica. Avant sa naissance, Alia détenait la moindre parcelle de la connaissance requise chez une révérende mère du Bene Gesserit. Plus, bien plus au travers de tous ses autres. Sachant cela, elle admettait une terrible réalité. L'abomination. La totalité de cette connaissance l'affaiblissait. Les prénés ne pouvaient échapper. Pourtant, elle avait lutté contre les plus redoutables de ses ancêtres, remportant pour un temps une victoire à la Pyrrhus qui avait tenu durant l'enfance. Elle avait développé une personnalité propre qui n'était nullement immunisée contre les intrusions violentes de tous ceux qui vivaient le reflet de leur vie à travers la sienne. « Ainsi serai-je un jour », songeait-elle. Et cette pensée était glaçante. S'infiltrer, se dissimuler dans la vie d'un enfant qu'elle aurait conçu, s'immiscer dans sa conscience, s'y agripper pour lui ajouter sa part d'expérience. La peur avait dominé son enfance, puis sa puberté. Elle l'avait combattue seule, sans jamais demander d'aide. Qui aurait pu comprendre ce dont elle avait besoin ? Certainement pas sa mère, qui jamais ne s'écarterait du spectre inébranlable du jugement Bene Gesserit. Le préné est l'abomination. Il y avait eu cette nuit où son frère s'était rendu seul au désert pour y chercher la mort, s'offrant à Shai Hulud, ainsi que devaient le faire les Fremen aveugles. Dans le même mois, Alia avait épousé le maître d'armes de Paul, Duncan Idaho, le Mentat ressuscité d'entre les morts par les arts Tleilaxu. Alors, sa mère avait regagné Caladan, et elle avait eu légalement la charge des enfants jumeaux de Paul. Et la régence. Les pressions de sa charge avaient eu raison des peurs anciennes, et elle s'était ouverte totalement aux vies qui étaient en elle, à leurs conseils. Elle s'était plongée dans la transe d'épices en quête de visions qui sauraient la guider. La crise survint par un jour comme tant d'autres, durant le printemps du mois de Lab. La matinée était claire, un vent froid venu du pôle soufflait sur le donjon de Paul. Alia était encore vêtue de jaune, la couleur de deuil du soleil stérile. De plus en plus fréquemment, ces dernières semaines, elle s'était fermée à la voix intérieure de sa mère qui dénigrait les préparatifs des journées saintes dont le temple serait le centre. La conscience intérieure de Jessica s'était estompée jusqu'à disparaître sur une dernière requête impersonnelle. Alia ferait mieux de travailler sur la loi Atréide. De nouvelles vies exigèrent alors leur moment de conscience, et Alia comprit qu'elle avait ouvert un puits sans fond. Les visages se rassemblaient comme une nuée de sauterelles. L'un d'eux s'imposa, devint plus net, presque une bête. Le vieux baron Harkonnen. Bouleversée, elle s'était mise à hurler sous cet affreux assaut, et pour un temps, le silence s'était rétabli. Ce matin-là, comme à l'accoutumée, Alia fit quelques pas dans le jardin-terrasse avant de prendre son petit déjeuner. Encore une fois, elle tenta de triompher dans cette bataille intérieure en maintenant la totalité de sa conscience dans l'admonition de Choda aux Zensuni. Qui abandonne l'échelle peut tomber vers le haut. Mais elle était distraite par l'éclat du jour sur les falaises du mur du bouclier. Des tapis élastiques d'herbes grasses s'étaient développés dans les sentiers du jardin. Ils étaient couverts de l'humidité prise à la nuit, des millions de gouttes de la rosée. Une multitude de reflets sur le passage d'Alia. Cette multitude l'étourdit. Chacun de ces reflets portait l'empreinte d'un visage de la multitude intérieure. Elle s'efforça de concentrer ses pensées sur ce que l'herbe impliquait. Le foisonnement de la rosée lui apprenait à quel point la transformation écologique d'Araki s'était avancée. Le climat sous ses latitudes nordiques se réchauffait. Le gaz carbonique dans l'air était en augmentation. Elle se souvint d'un nombre impressionnant d'hectares qui seraient ensemencés l'an prochain, et il fallait 1000 mètres cubes d'eau pour irriguer un hectare. En dépit de tous ses efforts pour ramener ses pensées vers les choses du réel, elle ne pouvait échapper à tous ces autres qui tournaient en elle comme autant de squales. Elle porta la main à ses tempes en fermant les yeux. La veille, les gardiens du temple lui avaient amené un prisonnier à juger à l'heure du crépuscule. Un certain Essas Paimon, un petit homme au teint sombre qui prétendait travailler pour une maison mineure, les Nébiros, spécialisé en objets religieux et articles de décoration. En fait, Paimon était connu comme espion de la Chaume. Sa mission était d'évaluer la récolte annuelle d'épices. Alia était sur le point de l'envoyer aux oubliettes lorsqu'il avait protesté bruyamment contre l'injustice des Atréides. Ses simples mots étaient suffisants pour qu'il meure sous le tripode de pendaison, mais son audace avait intrigué Alia. Depuis le trône du jugement, elle s'était adressée à lui avec une sévérité particulière, espérant l'effrayer afin qu'il lui révèle plus que ce qu'il avait dit aux inquisiteurs. « Pourquoi nos récoltes d'épices sont-elles si intéressantes aux yeux du combinat des honnêtes marchands ? Si tu nous le dis, tu seras peut-être gracié. »
« Je ne fais que ramasser ce que demande le marché. J'ignore ce que l'on peut faire de ma moisson. »
« Et c'est pour ce profit mesquin que tu entraves nos plans royaux ?»«
La royauté n'a jamais estimé que nous pouvions avoir nos propres plans, »
riposta Paimon. Fasciné par son arrogance désespérée, Alia lui demanda
« Essas Paimon, travaillerais-tu pour moi ?»
Il eut un sourire grimaçant.
Vous étiez sur le point de m'oblitérer sans remords. Aurais-je donc une valeur nouvelle pour que vous me proposiez ce marché?
Une valeur simple et pratique. Tu as de l'audace et tu veux servir le plus offrant. Je puis offrir plus que quiconque dans tout l'Empire.
Il lança alors une somme considérable pour ses services, mais Alia lui répondit par un rire et fit une contre-proposition qu'elle jugeait plus raisonnable et qui dépassait certainement de loin ce qu'avait jamais pu gagner Essas Paimon. Elle ajouta
« Et bien sûr, j'ajoute en prime ta vie, qui, je le présume, est pour toi d'une inestimable valeur. »
« Marché conclu, »
lança Paimon. Sur un geste d'Alia, il se retira, précédé du maître des audiences, Ziarenko Javid. Moins d'une heure plus tard, comme Alia s'apprêtait à quitter la salle des jugements, Javid surgit et lui rapporta que l'on avait entendu Paimon marmonner les paroles fatidiques de la Bible catholique orange « Maleficos non patietis vivere ». « Point ne souffrira que vive une sorcière », traduisit Alia. C'était donc ainsi qu'il montrait sa gratitude. Il était de ceux qui complotaient contre sa vie. Dans un instant de rage, tel qu'elle n'en avait jamais connu, elle ordonna l'exécution immédiate de Paimon et fit envoyer son corps au temple. Son eau, à tout le moins, serait de quelque valeur dans les coffres du clergé. Cette nuit-là, elle fut hantée par le visage de Paimon. Elle essaya tous les stratagèmes pour chasser son image obsédante, récitant le Bouji du livre de Créos des Fremen. Il n'arrive rien, il n'arrive rien.
Mais Paimon ne la quitta pas tout au long de cette nuit harassante, jusqu'à ce matin étincelant où son visage avait rejoint tous les autres dans les reflets de la rosée. Une femme de la garde apparut derrière une haie de mimosa et lui annonça que le petit déjeuner était servi. Alia soupira. Elle n'avait guère le choix entre deux enfers, le tumulte dans son esprit ou le tumulte autour d'elle. Toutes ces voix étaient les mêmes, absurdes, mais tellement insistantes dans leurs exigences. Bruit de sablier qu'elle eût aimé éteindre sur le fil de son couteau. Indifférente à la femme, Alia porta son regard vers le mur du bouclier. Sur le territoire préservé de son domaine, un Bahada avait laissé un vaste moraine, un immense éventail de détritus, un delta de sable et de rochers que la lumière du matin soulignait. Pour un regard profane, songea Alia, cela pouvait être le lit desséché d'un grand fleuve, alors qu'en réalité c'était en ce lieu précis que son frère avait percé le mur avec les atomiques des Atréides, ouvrant ainsi un passage au ver géant monté par ses Fremen, une voie vers la victoire sur son prédécesseur, l'empereur Shaddam IV. À présent, de l'autre côté du mur du bouclier, un large canat empli d'eau constituait l'unique rempart contre les incursions des vers. Ils ne franchiraient pas l'eau, elle les empoisonnait. Est-ce donc une barrière de ce genre qui s'est érigée dans mon esprit ? Se demanda Alia. Et cette seule pensée accrut son malaise, cette sensation inquiétante d'être séparée de la réalité. Les vers des sables, les vers des sables. Une collection d'images apparut dans son souvenir. Le puissant Shai-Hulud, démiurge des Fremen, animal fléau des profondeurs désertiques et source de l'inestimable richesse de l'épice. Il était si difficile, songea Alia, de se représenter l'évolution du redoutable ver à partir de cette chose timide, plate et tannée qu'étaient les truites des sables. Elle ressemblait à la multitude bêlant dans sa conscience. Les truites, lorsqu'elles s'assemblaient, serrées les unes contre les autres, s'appuyant sur la plateforme rocheuse d'Arrakis, formaient des citernes vivantes. Elles retenaient l'eau de sorte que leur vecteur, le ver des sables, puisse vivre. L'analogie était évidente. Certains de ces autres qui hantaient son esprit recelaient des forces redoutables qui pouvaient la détruire. La femme de sa garde appelait à nouveau, et cette fois il y avait une note d'impatience dans sa voix. Alia se retourna, irritée, et lui fit signe de se retirer. La femme disparut, claquant rageusement la porte de la terrasse derrière elle. Ce fut comme un signal. Toutes ces vies qu'Alia avait réussi à repousser jusqu'alors déferlèrent en un atroce mascaret. Chacune portait un visage qui s'imposait au centre même de sa vision. Et tous ces visages formaient un nuage, et ils étaient tous différents. Certains avaient la peau calleuse, d'autres étaient vérolés, ou encore envahis d'ombres fuligineuses. Leurs bouches étaient comme autant de losanges visqueux, leur multitude formait un courant puissant, une irrésistible marée de vie dans laquelle elle devait plonger, se laisser flotter. « Non, » murmura-t-elle. « Non, non, non. » Elle défaillit, sur le point de tomber. Ses ultimes forces lui permirent de gagner un banc proche. Elle essaya de s'asseoir, mais le poids de son corps l'entraîna. Elle demeura étendue sur le plastacier froid, protestant faiblement. La marée continuait de monter en elle. Son esprit était accordé sur le signal le plus ténu. Elle était avertie du danger, mais attentive à chaque clameur. Toutes ces voix exigeaient son attention totale en une cacophonie de « moi, moi, moi ». Mais elle savait que si jamais elle venait à leur obéir, à écouter l'une de ses suppliques, elle serait perdue. En choisissant un visage parmi cette multitude, en acceptant les mots que criait sa bouche, elle deviendrait prisonnière de cet égocentrisme qui, avec elle, vivait son existence. « C'est la préscience qui te vaut cela, » murmura une voix. Elle porta les mains à ses oreilles. « Je ne suis pas presciente. La transe ne m'apporte rien. » La voix insista. « Mais cela réussirait si l'on t'aidait. »«
Non, non !»
gémit-elle. D'autres voix s'insinuaient dans son esprit. « Moi, Agamemnon, ton ancêtre, j'exige audience. »
« Non, non !»
Ses mains pressaient ses tempes, la douleur fusa dans sa chair. Une voix coassante de dément s'éleva.
« Qu'est devenu Ovid ?»«
Évident, c'est John Bartley Tibbide. » Les noms n'avaient pas de sens dans l'état où elle se trouvait. Elle voulait hurler pour les repousser, pour faire taire toutes les autres voix. Mais elle ne savait plus où était sa propre voix. Sur l'ordre des maîtres serviteurs, la femme de la garde était revenue sur la terrasse. Depuis la haie de Mimosa, elle aperçut Alia étendue sur le banc et dit à une compagne
« Ah, elle se repose. As-tu remarqué qu'elle n'avait pas dormi cette nuit ?
Le zaha du matin lui fera du bien. » Alia ne pouvait l'entendre. Des voix aiguës piaillaient en elle.
« Nous sommes de vieux oiseaux moqueurs. Hurrah !»
Les échos se heurtèrent dans sa tête et elle songea «
Je perds l'esprit. Je vais devenir folle. »